Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un sport spectaculaire et très exigeant. Et c'est un champion du monde qui va nous en parler. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apirun, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition, et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive, mais aussi des champions, et pas que des champions dans des sports que nous connaissons tous hein, et qui sont comme ça auxquels nous pensons au premier abord. Mon invité fait du vélo. Enfin, il ne se qualifie pas vraiment comme un cycliste, car son truc ce n'est pas de faire des kilomètres. Contrairement à un invité précédent, Steven Le Yarrick, qui traverse des milliers de kilomètres de désert, les fesses rivées sur la selle, mon invité ne parcourt lui que quelques centaines de mètres dans une compétition. Et il a même pas de selle sur son vélo. Mais il le fait en bondissant sur tout un tas de rochers, murs, arbres, colonnes de béton et autres obstacles. Posé comme ça, là, au milieu du chemin. Mon invité est Vincent Hermans, plusieurs fois champion de France, d'Europe et du monde de VTT Trial et vainqueur de la Coupe du Monde. Une discipline extrêmement spectaculaire. Nous avons parlé de son sport et de son parcours. Il m'a expliqué comment il fait pour faire décoller ainsi son vélo sur plusieurs dizaines de centimètres de haut et même des plusieurs mètres, de la longévité de sa carrière, puisque ça fait 20 ans qu'il roule au plus haut niveau, de son entraînement, son alimentation, sa préparation globale pour être prêt, de ce que ça exige pour lui comme effort et énergie d'arriver à faire monter son vélo, à le faire tenir en équilibre sur des petites poutres, de sauter comme ça de rocher en rocher. Nous avons parlé aussi de ses différentes stratégies pour être au meilleur niveau, pour rester au meilleur niveau, comment il voit la concurrence de la jeunesse, comment il se prépare, comment la discipline a évolué et comment lui-même a fait évoluer aussi sa préparation. Il a essayé tout un tas d'entraînements, tout un tas de préparations pour garder le meilleur et ce qui lui permet d'être prêt chaque année. Et nous avons aussi parlé de sa manière de concilier sa préparation et son besoin de faire la fête aussi, et notamment de ce que ça exige d'être toujours comme ça au plus haut niveau. Bref, Vincent fait du VTT un peu différemment de nous, mais il nous délivre beaucoup beaucoup de conseils dont nous pouvons nous inspirer dans nos pratiques, car vous allez voir, vraiment, il est extrêmement pointu dans ses conseils. Allez, c'est parti. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Impeccable, impeccable. Content d'être avec toi.
Ah, bah alors moi je suis très content, puis j'ai passé une bonne partie de ma matinée à regarder des vidéos de tes petits exploits, de ce que tu fais. Et alors je t'avoue, moi je suis totalement fasciné, mais vraiment fasciné de ce que tu es capable de faire avec un vélo.
Ouais, le vélo trial, quand on connaît pas, c'est vrai que c'est assez bluffant. Et c'est un des trucs super cool dans ma discipline, quoi. C'est que pour les personnes qui connaissent pas, c'est impressionnant. Et quand on a déjà des billes un peu sur le vélo et tout, je pense que ça gâche rien au plaisir, quoi. Donc non, c'est un sport super sympa à faire partager, quoi.
Oui, alors c'est moi je le voyais parce que en plus j'ai un gars dans mon moi je suis à Clermont et j'ai un gars qui je vois ses vidéos, il saute sur plein de trucs, etc. Tu vois, et je me dis mais comment est-ce qu'on arrive à faire un tel truc avec son vélo? Parce que là je t'ai pas présenté, mais je vais te laisser te présenter après, mais quand même je me dis c'est dingue ton vélo, comment t'arrives à le mettre, à le faire bouger dans tous les sens, etc., pour monter sur des choses où moi je suis pas certain de savoir monter avec mes pieds.
Non, c'est sûr que moi, il y a déjà des choses que je fais en vélo que je ne ferai pas à pied. Je vais rien dire de bien malin, mais c'est une question d'habitude et d'entraînement, quoi. Donc on le voit, on le voit de toute façon dans tous les domaines sportifs, et c'est ce qui est si excitant dans nos pratiques, c'est que on arrive à éclater les limites, les possibilités qu'on aurait spontanément, on va dire. Donc c'est le but de l'entraînement, de repousser toujours ses limites. Et moi, ce qui me plaît avant tout dans mon sport, c'est que nos limites, elles sont hyper tangibles, quoi. Elles sont manifestes. Avant, je montais pas là, j'ai bossé, maintenant j'y arrive. Avant, j'arrivais pas à tenir ici, etc. Donc c'est vraiment ce côté-là qui me plaît, et c'est ce côté-là qui est le plus communicatif dans ma discipline.
Ouais. Ouais. Alors, on va quand même faire les présentations parce que moi, j'ai regardé la fiche Wikipédia. J'ai encore la fiche Wikipédia sous les yeux. Je regarde le nombre de titres de champion dans tous les sens. C'est juste incroyable palmarès.
C'est parce que j'ai une longue carrière, du coup, j'ai pu prendre un petit titre à droite à gauche. Et...
Non, parce qu'il y a des années où tu les cumules tous quand même.
Non, ouais, j'ai une longue carrière, c'est sûr, mais j'ai aussi eu vraiment la chance de prendre tous les titres dans ma discipline. Ça m'a pas rassasié dans le sens où je sais pas quelle était ma démarche de base, si je courais pour les titres. Pour pratiquer, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, si j'arrive à attraper à nouveau des titres, ce sera génial, mais j'ai plus grand chose à me prouver, on va dire, de ce côté-là. Donc ça reste une grosse motivation, mais quelque part j'ai des objectifs qui sont un peu plus perso, plus liés à ma pratique en elle-même, et c'est super épanouissant. Du coup, voilà, moi l'éthique, j'en fais pas une tartine dans le sens où j'ai été extrêmement focalisé là-dessus. Avant d'être champion du monde, les 3 années précédentes, j'ai été vice-champion du monde. Donc là, ça commençait vraiment à devenir une obsession, et j'ai réussi à me dégager de ça, donc c'est une bonne chose.
Oui, alors on va quand même le dire parce que. Alors attends, champion du monde 3 fois, champion d'Europe 3 fois, champion de France 1, 2, 3, 4 fois?
5.
5!
5.
Ah, la fiche Wikipédia elle est pas à jour alors.
Je sais même pas qui a fait cette fiche Wikipédia. Un jour, je suis tombé dessus, j'ai halluciné. Je me suis dit, ah, moi j'ai une fiche Wikipédia, c'est cool ça. Non, en fait, moi j'ai démarré. J'étais un peu tout le temps l'outsider en fait dans tous les domaines dans lesquels j'ai pu aller. Avec mon père, on a beaucoup beaucoup voyagé quand j'étais gamin en Europe, pas mal. Et les Espagnols étaient beaucoup plus forts, les Belges étaient beaucoup plus forts. Même en France, j'étais dominé par pas mal de mecs. Et du coup, j'ai un peu été tout le temps l'outsider, mais gros appétit, grosse volonté, mais peut-être moins de talent ou moins bien travaillé, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai longtemps été l'outsider. J'ai été champion du monde junior à 17 ans. Donc ça c'était une grosse surprise. J'ai battu pas mal de mes concurrents en qualif puis en finale sur ces championnats, alors que ça m'était jamais arrivé. Et de là je me suis dit bon, il y a peut-être encore. C'est devenu vraiment, je vais pas dire professionnel, mais hyper sérieux et hyper complet dans l'approche à partir de là, donc à 17 ans. Et du coup, vu que j'étais junior première année, toujours un petit peu pour rester dans cette logique d'outsider et me confronter aux meilleurs, j'ai demandé à être surclassé directement parmi les élites. Donc j'ai fait qu'une année en junior, et pareil, je suis reparti contre des mecs beaucoup plus forts que moi et j'ai grappillé petit à petit, quoi.
Ouais, c'est ta logique de fonctionnement un petit peu.
Ouais, moi je j'ai jamais été, tu vois, j'ai jamais pris deux titres 2 années de suite au niveau des championnats du monde parce que je pense que ça me fait quand même. Maintenant, c'est un petit peu différent. Je te dis, mes objectifs ont un petit peu changé. Mais moi, j'avais gros appétit. Mais une fois que j'étais rassasié avec un titre, peut-être inconsciemment, je bossais beaucoup moins les années suivantes. Alors moi, j'ai un côté assez rigoriste, on va dire. Donc les heures, je les faisais. C'est pas le problème. Mais on le sait tous, hein. Il y a faire 2 heures d'entraînement et faire 2 heures d'entraînement où on cherche à capitaliser, à avancer, etc. Et du coup, ouais, j'avais vraiment cette logique d'aller chercher des objectifs, des challenges et tout. Et peut-être un petit peu m'endormir une fois que c'est fait. Donc là, tu vois, j'ai maintenant bientôt 37 ans. Et mon dernier titre, c'était en 2015. Donc ça remonte, mon dernier titre de champion du monde. Donc voilà, là, je suis sur la dernière phase de ma carrière, on va dire. Et l'objectif, il est élevé. J'aimerais vraiment réussir à prendre encore au moins un titre de champion du monde. Donc voilà, l'objectif est élevé. Mais comme je te disais, pas de pression par rapport à ça. Et surtout, en fait, l'objectif d'être champion du monde, il est presque décontextualisé de la compète dans le sens où j'ai des objectifs techniques. Je sais le niveau de maîtrise que j'aimerais atteindre sur mon vélo, niveau de performance physique, etc. Et si j'arrive à mettre tout ça et que ça se traduit par un titre, c'est génial. Mais j'aurais pas le sentiment d'avoir couru ces dernières années ou ces dernières années qui sont plus coûteuses physiquement, notamment. Je suis un peu tout le temps blessé, blessouillé. Donc voilà, j'aurais pas le sentiment d'avoir, entre guillemets, investi des années un peu à blanc parce que j'ai un niveau de pratique sur mon vélo, un niveau de maîtrise après lequel j'ai toujours couru. Donc depuis 1 an et demi, j'ai encore passé un cap et je m'épanouis à fond. Donc voilà, ce serait cool que ça se matérialise par des titres. Si c'est pas le cas, voilà, c'est pas très très grave.
Alors, on va rappeler quand même le principe du VTT trial. C'est, si je schématise, c'est quoi? C'est de dire faut passer dans un truc où personne n'arrive à passer sans mettre le pied au sol?
L'objectif du sport, il est assez simple. Tu as un temps donné pour parcourir ce qu'on appelle une zone. Et du coup, ce qui est sanctionné, c'est les pieds posés au sol. Donc c'est aussi bête que ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, évidemment, ce qui fait la différence, c'est les obstacles. Donc pour te donner un ordre d'idée, une zone, ça va faire, allez, 30 mètres de long, 40 mètres de long, et on a 2 minutes pour le faire. Donc t'imagines à quel point le temps n'est pas le critère numéro 1. C'est vraiment les capacités de franchissement. Par contre, bah, on pousse tout à l'extrême. Donc du coup, au bout d'un moment, bah, même le temps lui aussi devient une limite parce qu'on va avoir tendance à rallonger ou à augmenter l'intensité dans les zones. Et donc voilà, le premier facteur, ça va être les capacités de franchissement. Et évidemment, dans le franchissement, conserver la maîtrise. Donc c'est les capacités physiques d'explosivité, de force, etc., liées avec l'équilibre, la précision. Et puis, donc ça, c'est vraiment, c'est le principe de base de mon sport. Et tu viens ajouter là-dessus une dimension physique, où notamment au niveau des filières énergétiques, on a un sport un petit peu mixte, où en gros l'objectif est de ne jamais rentrer dans les phases lactiques, parce que voilà, on sait tous ce que ça fait, quoi. Et du coup, c'est à peu près rédhibitoire par rapport aux gros efforts explosifs. Donc en fait, il faut être capable de. Sur ces 2 minutes-là, c'est un espèce de fractionné, en fait. Il faut être capable de toujours rester dans une espèce de zone à peu près confortable, où tu arrives à travailler sous la zone lactique. Donc le but, ça va être à la fois de tolérer un petit peu ces entrées en lactique, mais surtout de reculer nos seuils. Et donc ça pourrait se faire, et certains le font, par un énorme boulot physique. Là, on va calculer de façon très pointue ces seuils lactiques, combien de temps on les tient, comment on les repousse, etc. C'est pas du tout mon approche. Moi, mon approche, c'est de me dire que si j'ai 4 obstacles qui me demandent 100% de ce que je suis capable de faire, si je progresse et que ces 4 obstacles ils deviennent 90% de ce que je suis capable de faire, je vais avoir une aisance technique qui va me permettre de générer beaucoup moins de fatigue. Donc voilà, si tu veux, le principe de base pour être un peu plus concis, capacité de franchissement, et là-dessus tu viens rajouter un espèce de compromis entre tes capacités physiques et tes capacités techniques, ce qui fait que si tu as un super package technique et d'explosivité, l'endurance et la résistance, on va dire, elle devient moins importante et inversement. Donc, comme dans tous les sports, tu as un espèce de package à trouver entre la technique, le physique et grosse dimension mentale aussi, parce que tu vois, je te le disais, on a 2 minutes pour parcourir, je sais pas, 30 mètres. Du coup, ce qui se passe, c'est que le temps de réflexion, le temps de gamberge, il est bien, bien, bien supérieur au temps d'action en lui-même. Nous, nos prises d'élan, elles font 4 mètres, 5 mètres. On se lance sur 4-5 mètres, on fait un obstacle, c'est déjà terminé. Tu es déjà en train de repenser à l'obstacle d'après. Donc voilà, c'est grosse dimension mentale, technique, physique. Donc à mon sens, un sport super complet. Mais je crois que tout le monde dit ça de son sport de toute façon.
Oui, mais ce qui est, alors je me rends pas compte parce que sur les vidéos on se rend pas compte la hauteur d'un obstacle parce que j'ai regardé une vidéo, ça doit être à La Roche-sur-Yon ou quelque chose comme ça où en fait on a l'impression que c'est des gros rochers qui sont posés comme ça. Ça fait combien de haut un de ces gros blocs là?
Si tu veux, ça dépend énormément des techniques. Pour donner un peu des repères, si on parle d'un obstacle vraiment carré, quoi, un cube, sans tremplin, on peut monter quasiment 2 mètres. Donc, tu vois, t'imagines un mur d'1,80 m, c'est à peu près les vacances. Au-delà d'un 80, tu vois, un petit 1,90 m, ça devient chaud. Et ça, c'est avec un élan qui va faire 7 mètres à peu près, je sais pas, je te dis ça à peu près. Et ensuite, on a aussi beaucoup d'obstacles on monte ce qu'on appelle nous en latéral, c'est-à-dire que tu viens de positionner parallèlement à l'obstacle et tu montes de côté en fait. Donc évidemment, tu pars quasiment collé, donc c'est un petit peu comme le principe d'un saut à pieds joints, sauf que tu le ferais de côté pour passer les deux roues, quoi. Et donc là, on monte aux alentours d'1,50 m. Donc tu vois, c'est des choses que je serais bien incapable de faire, quoi, à pied, sans le vélo. Et donc ça, c'est un petit peu les techniques principales. Et puis après, ça s'organise aussi beaucoup autour de techniques à l'arrêt. Donc tu vas sauter d'un obstacle à un autre. Et là, si on parle de gap à plat, donc d'un saut comme un saut en longueur, quoi. Là, on passe départ arrêté, on va passer plus de 3 mètres. Donc c'est pareil. Je pense que des gens capables à pieds joints de sauter plus de 3 mètres, compliqué. Et du coup, le vélo, il est là, comme dans tous les sports mécaniques, quoi. Le vélo, il est là pour booster nos performances à pied, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment un outil pour franchir des choses qu'on serait pas forcément capable de faire à pied, ou du moins pas sans les mains, quoi. Donc là, le but, c'est d'être uniquement sur les deux roues, là où il serait impossible de faire des choses uniquement sur ses pieds.
Oui, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que le vélo, c'est un outil de. Il y a quoi? Il y a un rebond dans le vélo? Il y a de.
Excuse-moi.
Pardon. Attends, je vais refaire ma question en fait. Oui, c'est ce qui est impressionnant en fait, c'est que le vélo, il n'y a pas de. Enfin, je dirais pas de moteur, il n'y a pas de ressort à l'intérieur. C'est quoi? C'est le. Enfin, j'ai du mal à comprendre, à savoir comment il agit comme comment il t'aide en fait.
Ta question a vachement de sens. En fait, souvent, on nous demande si on nous dit que ce qu'on fait des choses incroyables, mais en plus, votre vélo, il est rigide, il n'y a pas de suspension. Mmh. En fait, le principe d'une suspension, c'est d'amortir une contrainte, un effort, une force. Donc nous, en fait, on a besoin à peu près du contraire d'un amortisseur. Donc ça pourrait presque être un ressort. Sauf que t'imagines bien que si notre vélo, il avait des ressorts un peu partout, bah, il ne serait pas stable du tout. Mmh. Donc en fait, on va retrouver un cadre. En gros, toutes les parties, hormis les pneus, toutes les parties du vélo vont être le plus rigide possible. Mmh. Idéalement, il ne faut pas que ce soit raide. Il faut quand même que ça restitue un petit peu la force. Et puis après, tu as le travail des pneus. Donc les pneus, ils paraissent sous-gonflés. En fait, on est à 1,7 kg, 1,8 kg. Donc c'est à peu près comme... tu vois, si ton VTT, tu l'as laissé un peu longtemps dans le garage, il va être plutôt moins gonflé que ça.
Ouais.
Donc voilà, on a une pression qui est assez faible parce que quelque part, on est sur une seule roue la plupart du temps. Et là, du coup, le pneu va avoir un effet rebond. Mais si tu veux, on retrouve un petit peu dans l'approche physique et même un peu biomécanique, on va dire, du sport. C'est un petit peu la différence entre du saut en hauteur en athlée, où tu vas avoir des profils, d'athlètes très très légers, qui vont chercher à avoir un rapport poids-puissance optimal vraiment de ce côté-là. Et puis des perchistes. Les perchistes, ils ont besoin à la fois d'avoir un bon rapport poids-puissance évidemment, mais ils doivent transmettre une certaine force dans la perche qui va démultiplier l'effort mis. Et du coup, on va avoir des profils un petit peu plus musculeux. C'est ce que tu retrouves dans mon sport. Le but, c'est voilà, d'être léger parce qu'il faut... il est inutile de travailler du poids pour rien. Et il faut surtout passer de la force dans le pneu, dans le cadre qui restitue et évidemment dans la transmission. Donc en fait, le fait de pousser fort sur ta pédale donne une accélération à ta roue. Et si cette force-là, elle est bien orientée, bah, tu te retrouves à profiter vraiment du vélo comme d'un... ouais, comme de la perche d'un athlète, ou voilà, c'est quelque chose qui va démultiplier ta force. Donc ouais, en fait, on a un vélo qui n'a pas de suspension, qui est super épuré, et par contre qui est là, bah voilà, pour à la fois encaisser de grosses contraintes, mais aussi avoir des propriétés dynamiques intéressantes, quoi.
Ouais. Alors j'imagine, parce que là tu dis, bon, on met de la force dans la pédale à un moment donné, c'est-à-dire que faut quand même des jambes, une puissance dans les jambes, mais dans tout le corps, parce que enfin après il y a cette notion d'équilibre, etc. Et j'imagine que, enfin, toi on te demande même pas si tu fais du gainage, du renforcement, de la muscu, des choses comme ça.
Ça prend, bah, encore une fois, hein, c'est vraiment la tendance de plein de sports. La prépa physique prend une place de plus en plus importante. Moi, j'ai une approche un petit peu mixte par rapport à ça. Je fais 3 séances par semaine, mais j'ai toujours plus ou moins fait 3 séances de physique, sauf que il y a des années, il y avait une séance qui était plus sur endurance fondamentale, une séance qui était plus du renforcement musculaire, une séance qui était plus de la muscu, quoi. Alors que maintenant, tout se passe sous la barre. Donc on va avoir quelque chose de... L'année dernière, par exemple, j'ai fait quasiment exclusivement de la force avec un préparateur en force athlétique. Donc une grosse, grosse dominante de squat, soulevé de terre, développé couché, l'exercice un peu fondamentaux de muscu, et plein d'exercices complémentaires. Donc ouais, effectivement, la dimension physique, elle est ultra importante. Il y a pas mal d'athlètes qui se préparent en faisant énormément d'haltérophilie, parce que le principe de l'haltéro, c'est très à la mode en prépa physique, mais je trouve que dans mon sport, c'est super logique. En gros, le principe de l'haltérophilie, c'est de générer de la force sur une barre et de s'organiser autour. Donc c'est à peu près la définition biomécanique de mon sport. C'est générer de la force autour de ton vélo, t'organiser autour. Donc voilà, il y a des athlètes qui font énormément d'haltérophilie. Moi, j'en fais un petit peu, mais pas énormément parce que je suis déjà âgé. Du coup, il y a un énorme travail technique à faire en haltéro. Et moi, j'ai, par exemple, je manque un peu de mobilité au niveau des épaules, mais j'ai la chance d'avoir une bonne mobilité de cheville. Donc il y a des exercices d'haltéro que je fais, d'autres moins. Mais voilà, moi, c'est beaucoup, beaucoup de force. Et du coup, si tu veux, j'ai dû prendre 10 kilos par rapport à il y a 10 ans, quoi. Donc c'est extrêmement efficace pour notre sport. C'est assez traumatisant quand même parce que moi je suis fragile des tendons notamment, donc de ce côté-là ça couine un petit peu. Mais voilà. Et puis en fait, on se rend compte que on est sur un sport de puissance. La puissance, c'est rien d'autre que le produit de ta force et de ta vitesse. Et les qualités de vitesse, elles sont extrêmement dures à améliorer. Les qualités de pliométrie, c'est un petit peu la même chose, alors que la force, c'est quelque chose de beaucoup plus simple à faire progresser. Donc si tu arrives à progresser en force sans perdre trop en vitesse, ta puissance, elle augmente, quoi. Donc voilà, ouais, grosse partie de prépa physique. Et puis, pareil, plein d'approches possibles, et c'est ça qui est très riche. Je suis dans un sport jeune, donc si tu veux, c'est pas encore trop formaté. Donc il y a plein d'approches. À une époque, certains trialistes faisaient énormément de transferts le plus direct possible. En gros, ils travaillaient en muscu avec le vélo juste à côté. Parce que bah, transférer le plus rapidement possible, ça pouvait sembler assez intuitif. Moi, j'étais complètement contre cette approche parce que je trouve que la technique, elle doit être faite dans les meilleures conditions, avec un voilà. En gros, je suis bien échauffé, je suis dans les aptitudes techniques pointues parce que voilà, c'est du haut niveau, je suis censé exceller, donc je dois être dans les meilleures conditions. Donc voilà, encore une fois, tout est possible. Je te dis, certains font beaucoup beaucoup d'haltéro. Il y en a qui se centrent beaucoup plus que moi sur la technique. Ça fonctionne aussi. Donc voilà, le champ des possibles est ultra large. Ça, c'est génial dans mon sport. Mais dans tous les cas où, effectivement, comme tu le disais, la partie physique prend vraiment de l'importance.
On se rend pas compte parce que ça, moi jusqu'à maintenant, on a beaucoup reçu de sportifs qui sont dans l'endurance et dans lequel eux, ils ont des contraintes. Alors bon, je parle, il y en a qui ont traversé la rame à l'Atlantique, il y a ceux qui ont traversé la Manche en nageant, etc. Donc, qui ont des besoins d'endurance très longues. Toi, finalement, une manche, elle est au maximum, tu disais sur 2 minutes, mais dans ces 2 minutes. Il y a une partie parce que, et je mettrai des liens vers des vidéos parce que c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie où tu roules, puis il y a toute une partie d'ajustement, faire des petits sauts, des équilibres, changer j'ai envie de dire, envie de changer de roue, de choses comme ça. Et puis d'un coup, bam, il faut partir en l'air, et puis on recommence.
Oui, alors en fait, il y a vraiment ce côté fractionné. Bah les jeunes générations ont amené beaucoup plus de dynamisme. Je pense que les zones maintenant sont quasiment 2 fois plus denses qu'avant, ce qui est super pour le spectacle parce que on avait un sport qui reste un petit peu statique, mais qui l'était beaucoup trop. Donc moi, je galère un petit peu pour me mettre à la page à ce niveau-là, mais c'est une super évolution pour notre sport. Et en plus, ça demande quelque part, c'est ce qui fait la différence dans les disciplines techniques à la fin, c'est toujours le niveau justement technique. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, quoi, si t'es relâché et que tu es capable de passer beaucoup plus que ce qu'on te demande, tu trouves de l'aisance technique, de la fluidité. Donc en définitive, ouais, notre sport, il est de plus en plus dynamique, mais ça reste un sport ouais, vraiment fractionné, quoi. Et par contre, on parlait des 2 minutes. En fait, ce qu'on appelle des zones, tu vas en avoir 10 à faire en qualif. Et 5 en finale. Donc, tu vois, tu as quand même fait tes 15 fois 2 minutes dans la journée. Donc voilà, ça peut être quand même. Enfin, si tu veux, alors là, on n'est évidemment pas du tout dans l'endurance, mais par contre, voilà, il faut être capable de se remettre en jambes et de garder une certaine fraîcheur. Et du coup, c'est aussi une dimension importante dans mon sport parce que ben voilà, tu fais un premier échauffement. Tu fais tes 10 zones de qualif, ensuite tu as une pause, quelque part, donc physiquement on se passerait bien, parce que tu te refroidis, etc. Donc nouvel échauffement, puis la finale. Donc il y a quand même une notion de résistance, on va dire. Enfin voilà, il faut tenir la journée. Donc ça, encore une fois, est-ce que pour tenir ça, tu as besoin de faire beaucoup d'endurance fondamentale? C'est une option. Ou est-ce que si tu fais tellement toute l'année de vélo de spécifique, bah, tu tiens largement les compètes? Deux approches qui sont possibles.
Oui, c'est ce que j'allais dire parce que quand tu es sur ton vélo, finalement, on peut dire qu'à un moment donné, quand tu es sur la fin de ta zone, que tu as fait tes sauts, etc., et qu'il te reste peut-être un gros dernier bloc à passer, enfin, tu pourras avoir tes jambes qui peuvent être tétanisées, tu peux, enfin, les jambes, les bras, tu peux te dire, ça, faut garder cet équilibre, arriver à se placer, etc. Il y a plus en plus, il y a une dimension de stress parce qu'au fur et à mesure que tu arrives vers le bout, mais tu peux dire que physiquement, c'est vrai qu'il y a une espèce de résistance que j'ai aucun mal à voir cette difficulté qu'on peut avoir. Justement se dire bah, il faut que mes muscles arrivent à tenir tout cet équilibre et puis que j'ai encore de la force pour partir en l'air quoi.
Ouais, bah si tu veux, en plus c'est physiquement, on va te demander évidemment des qualités de bondissement, on va dire. Mais tu vois, y a un truc qui est ultra coûteux dans mon sport, c'est les extenseurs de l'index. Parce que tu es beaucoup sur la roue arrière, donc tu passes ton temps à freiner, lâcher le frein, freiner, lâcher le frein. Et du coup, bah, le corps humain, il est fait de telle sorte que les fléchisseurs des doigts sont très forts, les extenseurs beaucoup moins. Donc, on congestionne très vite des avant-bras à chercher à relâcher le levier de frein, relâcher le levier de frein. Donc ça, par exemple, là, on est bêtement sur ou de l'excentrique, ou une forme bizarre de concentrique, ou de l'isométrique, mais bref, voilà, une filière qui n'a rien à voir avec l'explosivité sur des muscles très spécifiques. Dans le même temps, par contre, il faut garder des qualités d'explosivité et tout. Donc voilà. Moi, si tu veux, par exemple, pour travailler cet aspect-là, moi, je fais pas mal de judo. Et je trouve ça super, super intéressant parce que qu'est-ce qui se passe en judo? En judo, il faut être capable de. Il y a une composante physique permanente, d'appui sur l'autre, etc. Une espèce de forme d'isométrie, mais qui ne doit pas du tout être raide parce qu'il faut être capable de trouver de l'explosivité, du relâchement. Et aussi, à mesure que la fatigue est là et qu'on se fait parfois même dominer physiquement, il faut garder la lucidité. Donc, être capable de tenir un effort important sur un temps court. Dans le même temps de trouver du relâchement, de l'explosivité, de la lucidité, bah c'est un petit peu ce qui se passe dans mon sport. Donc voilà, c'est comme je te le disais, je pense que c'est un sport hyper complet. Et du coup, cet aspect physique-là, il est bah de plus en plus le sport évoluant, on demande aussi à ces qualités-là de suivre quoi. Donc il faut comme dans tous les sports, il faut passer de plus en plus gros, de plus en plus vite et avec un niveau technique qui augmente quoi.
Oui, alors j'y pense. Après, on reviendra sur la nutrition parce que pour nourrir le sportif, le champion, on va en parler de ça. Mais je me demande quand même, est-ce qu'il y a une dimension artistique dans les notations? Est-ce qu'il y a une notation? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que c'est extrêmement visuel et j'ai vu une vidéo, c'était à Isola où tu fais des sauts dans la montagne et tout là. C'est magnifique. Mais je me dis, est-ce que sur les compètes, il y a une dimension artistique?
Non, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Alors, je te parlais de, voilà, l'objectif, c'est de pas poser le pied dans ta zone. Moi, ce que j'aime dans mon sport, c'est que c'est bête et méchant. On compte le nombre de pénalités. Alors, il y a un système un peu plus compliqué. Les points, enfin, voilà, tu poses un pied ou ta pédale touche, etc. En gros, seuls les appuis des roues sont autorisés. Tu as un parcours qui est imposé, tu t'organises exactement comme tu veux. Donc, que tu passes avec une aisance, royale et une prise de risque incroyable, ou que tu trouves, parce que parfois il y a des espèces de moyens entre guillemets presque de gruger, tu vois, tu trouves un espèce d'angle un peu différent et en fait c'est beaucoup plus facile, tant mieux pour toi. Donc moi c'est ce que j'aime dans mon sport, c'est qu'il n'y a pas de dimension subjective par les juges quoi. C'est simplement voilà, c'est les arbitres qui sont là pour dire si ce que tu as fait c'est bon ou pas. Et par contre c'est vrai que notre sport, bah, l'efficacité dans notre sport passe par de la maîtrise, par quelque chose d'impressionnant. Et du coup, je pense qu'on est tous sensibilisés à cette dimension-là parce que, bah, on fait des démonstrations, on fait des vidéos, on est dans une discipline, voilà, un peu freestyle dans sa façon d'être pratiquée, mais pas du tout en compétition. Et moi, ça me va bien parce que je pense que j'aurais eu du mal à me faire un sport où tu as de la notation subjective. Donc, je crois pas que ça m'aura emballé. Mais par contre, c'est sûr que oui, c'est la dimension de. On sait tous qui sont les pilotes parmi les plus stylés, ceux qui le sont moins. Et c'est frustrant de se faire battre des fois par des mecs qui ont des styles que nous, on va juger un peu dégueulasses, des organisations un peu primaires, sauf qu'ils ont été hyper efficaces. Et c'est cool, quoi, il y a tous les profils. Et tu as aussi des mecs super, super artistes dans leur approche. Et puis bah, parfois, quand ils sont en plus forts en compétition, bah, c'est le top pour eux. Des fois, ils ont du mal à mettre ça en œuvre en compète. Et puis, il y a aussi toute une discipline de mon sport qui se fait autour non plus du tout de la compétition, mais de la vidéo et des démos, exclusivement. Et du coup, c'est une autre forme de pratique de mon sport. Donc voilà, on est un petit peu comme tu aurais pu avoir, comme tu as pu avoir dans, je sais pas, dans le motocross, par exemple, avec les courses, et maintenant le FMX qui se développe sur des concours où on juge uniquement le style. Donc nous, on est dans. Je pense que ça tendra à être séparé, mais on est dans des années où c'est encore lié. Je trouve ça super cool parce que, bah voilà, je te dis, même si la dimension du style, elle n'est pas directement discriminée en compète, on doit quand même garder ça en tête pour nos sponsors, pour nos vidéos, pour les gens qui aiment notre sport et tout. Donc c'est très très riche aussi.
Ouais, parce qu'en plus, on adore regarder les vidéos avec les. J'ai encore des souvenirs de mecs qui passent d'un rail de vélo, tu sais, sur du train, d'un rail à l'autre, qui font des trucs dans un sens, dans l'autre, etc. C'est épatant parce qu'en plus, c'est super bien filmé. Et puis, on a une ère des réseaux sociaux, d'Instagram, de YouTube, où tout ça se partage tellement bien. Et puis, on a aussi les images des X Games, où on a toutes ces images-là, où on voit tout ça. Moi, j'avais un souvenir, mais je pense que c'était en moto, qu'il y avait Bercy, il y avait du trial à Bercy, des choses comme ça aussi. C'est même du sport en salle, on peut le faire.
Ouais, mais il y a beaucoup de compétitions. Moi, j'ai eu la chance de faire justement les démonstrations de vélo pendant le trial indoor à Bercy. Donc ouais, j'ai pu rouler à Bercy. Ça, c'était un grand moment dans ma carrière. Mais ouais, donc et là, en fait, tu vois, on se retrouve à Bercy en moto, un format compétition. Et puis bah des vélos qui viennent pour faire de l'animation autour des zones de compète. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, c'est encore complètement lié. Mais comme tu le dis, de plus en plus, les vidéos sur Internet, ça va être des vidéos professionnelles avec des mecs qui n'ont plus pour objectif d'être performants en compète, d'être capables de passer du premier coup sans avoir essayé les obstacles. Ça, c'est ce que nous, on doit faire en compète. Mais eux, au contraire, ils vont faire un truc qui va être génial, à la 200e prise s'il faut, quoi. Et moi, je trouve ça tout aussi cool, super vecteur de communication pour notre sport parce que eux, c'est leur boulot, donc ils excellent là-dedans. Et nous, c'est une autre dimension. Donc, je pense que c'est complètement complémentaire. Et en définitive, moi, je trouve ça simplement moins excitant. Moi, ce qui me booste, c'est vraiment l'adrénaline de la compète et puis mesurer ma progression. Voilà, me dire que j'ai progressé de 4 cm sur une technique, c'est génial. D'un centimètre, c'est très bien. D'avoir perdu un demi, c'est une catastrophe. Voilà, moi, j'ai cette approche-là. Et après, quelque part, je te dirais, on retrouve ça dans plein de sports. Ça, c'est une évolution assez naturelle, en fait, qui est un truc un peu plus tourné vers les réseaux sociaux et tout qui se développe. Moi, je pense que c'est complètement compatible. Et puis après, si ça va se spécialisant, et ben, ce sera à nous de retrouver notre place de compétiteur et à la vidéo de faire des choses encore plus incroyables, quoi.
Alors, on va parler de nutrition maintenant, parce que quand même, tu dis, tu as beaucoup d'entraînement, donc tu parles de force, tu parles de résistance, tu parles d'endurance, etc. Et bien sûr, la question qu'on se pose, c'est comment, finalement, on nourrit le champion là-dedans. Surtout que, j'imagine, tu parlais un peu de l'histoire du poids, il y a un rapport poids-puissance, enfin, pour monter à 2 mètres, faut quand même pas être non plus le plus gros mastoc, quoi. Faut garder quand même un certain équilibre.
Ouais, bah cet équilibre-là, il est évidemment difficile à trouver, et je pense qu'en fait, il faut aussi un petit peu se poser la question du profil d'athlète qu'on veut être. Moi, il y a des années de ça, avant que la force ne prenne une place si importante dans mon entraînement, j'avais cherché vraiment à optimiser mon rapport poids-puissance. Et du coup, bah je faisais super attention à ce que je mangeais. J'avais quand même pas mal limité l'apport en glucides, pour essayer d'avoir voilà une dose de protéines pertinente mais un apport calorique global assez faible et j'avais un rapport poids-puissance à mon avis assez intéressant sauf que bah quand je me levais trop vite j'avais des chutes de tension, enfin j'étais tout le temps malade, j'étais vraiment à l'agonie et je pensais que c'était le chemin. Et puis quelque part ça rejoignait aussi une dimension mentale dans le sens où je me faisais mal au niveau de cette discipline-là et je me disais que ça faisait partie des efforts qu'il fallait fournir et du coup grâce à ça je me sentais fort. Sauf que en définitive, je pense que j'ai un profil à être peut-être plus musculeux que ce que je le pensais. J'ai rencontré aussi des préparateurs physiques qui m'ont orienté vers la force. Et du coup, en définitive, j'ai fait évoluer mon profil. Et je ne pense pas qu'il y ait de recette toute faite dans mon sport, puisque tu vois, à chaque fois que tu me poses une question, je te dis oui, dans ce sens-là, mais d'un autre côté, on peut le faire différemment. C'est un sport tellement mixte que voilà, moi je pense qu'il faut surtout avoir un petit peu une idée directrice, s'inventer. Et puis après, par contre, chercher à optimiser autour de ça. Mais donc voilà, moi aujourd'hui, je me prends beaucoup beaucoup moins la tête au niveau de tenir un régime, aussi parce que mentalement, ça me détruit, quoi. Moi, j'ai vraiment besoin de faire plaisir en mangeant. Et moi, je suis un gros 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 travailleur. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup de mal à arrêter de faire la fête. Et j'ai beaucoup de mal à être trop trop strict au niveau de l'alimentation. Pareil, ça, moi, j'ai arrêté de batailler avec ça et je l'accepte aujourd'hui parce que, bah, en fait, en définitive, ça me correspond mieux. Je suis plus épanoui, je suis plus fort et ça fonctionne mieux comme ça. Mais ouais, du coup, la nutrition, en fait, pour nous, elle est pas décisive en compétition parce que, tu vois, si on reprend un petit peu la durée d'effort et la façon dont c'est organisé, tu n'as t'as pas de, tu vas pas taper dans tes réserves, tu vas pas. Donc à ce niveau-là, c'est peut-être pas l'enjeu, il n'est pas énorme, mais par contre, voilà, c'est au quotidien, il faut essayer de bien associer l'entraînement que tu pratiques et le régime à mettre en face, quoi. Donc moi aujourd'hui, par exemple, je sais que bah, j'essaie quand même de pas trop être, pas trop me lâcher sur les glucides. Je suis vigilant à la quantité de protéines quotidiennes que j'ingère, parce qu'en fait c'est difficile si on supplémente pas du tout en protéines en poudre ou ce genre de choses. C'est compliqué en fait d'avoir un apport en protéines suffisant. Donc moi je suis assez vigilant à ce niveau-là. Et puis après, franchement, c'est pas plus compliqué que bah, quand je me rends compte que j'ai pris un peu de gras, bah, je lève un peu le pied sur la gamelle et voilà. Mais j'ai pas, honnêtement, je me suis un petit peu décentré de, je me suis un petit peu décentré de ça pour avoir une approche un peu globale et assez cohérente. Encore une fois, parce que c'est pas la clé dans mon sport et parce que moi, je réagis pas bien à trop d'efforts là-dedans. Donc, essayer de mettre un maximum de bon sens, de plaisir aussi, et puis après, essayer de faire les choses de manière un peu cohérente, quoi.
Ouais, et puis tu le dis aussi, parce que finalement, il y a les amis, il peut y avoir la vie de famille, il peut y avoir aussi la vie sociale, j'ai envie de dire, de se dire, j'ai pas non plus envie de... ça fait... Attends, parce que t'as dit, à 17 ans, t'étais déjà finalement pro? Quelque chose comme ça?
Ouais, moi j'ai commencé à vivre du vélo avant de me demander comment j'allais gagner ma vie, quoi.
Ouais.
Donc j'ai toujours fait pas mal de petites choses à côté pour pas être que sur le vélo parce que j'avais besoin de m'aérer l'esprit. Mais ouais, ça fait plein d'années que je suis là-dedans et encore une fois, bah moi pour m'aérer l'esprit, j'ai besoin de voilà de profiter avec ma famille, avec mes amis et puis de me faire plaisir. Ah, j'ai ma machine à café qui est en train de s'éteindre. Elle doit faire du bruit, tu dois entendre, je sais
Ouais,
pas.
on va faire une petite pause, on va attendre qu'elle finisse, mais c'est pas grave.
Je crois qu'elle. Attends. J'ai branché mon ordi, j'en profite. C'est bon, la terminée, c'est.
Elle a
C'est
terminé
ça.
son boulot. Oui,
Voilà.
parce que en fait, je tilte dessus, c'est que ça fait plus de 20 ans que finalement tu es à ce niveau, très très haut niveau. Donc j'avais discuté dans un épisode précédent avec Alban Chorin qui était champion de France de marathon et qui disait que lui au bout d'un moment il avait eu marre aussi de l'entraînement, qu'il avait voulu retrouver aussi notre forme de vie, d'entraînement plus simple, de peut-être faire moins d'efforts sur certains aspects ou en tout cas d'aller changer de sa pratique un petit peu aussi parce qu'il y a une usure.
Il y a complètement une usure. Et en fait, moi, ce qui fait aussi que j'ai une carrière aussi longue, c'est que mon sport est jeune, donc il évolue énormément. Et du coup, ce qu'on pensait être la limite possible, ou très très proche de la limite il y a 20 piges, quand on commençait à performer à haut niveau, maintenant, ça va être du niveau minime. Que, bah, voilà, ça va, je pense que ça va progresser de moins en moins vite, mais le sport explose. Et du coup, bah moi j'ai dû me réinventer 1000 fois à mesure que de nouvelles générations arrivaient avec bah d'abord mon apport. J'espère que j'ai contribué à constituer une forme de nouvelle vague. Et puis par contre, bah après, suivre les nouvelles vagues qui arrivaient successives. Donc ouais, il a fallu se réinventer tout le temps. Et du coup, je te dis, moi j'ai plus d'idées arrêtées sur rien dans le sens où j'ai cherché par tous les bouts. Et en définitive, je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir. Je parlerai pas pour d'autres sports, mais dans le mien, il faut vraiment avoir une espèce de, une idée très générale de l'athlète qu'on veut être, de qui on est, de comment, tu vois, ça fait un peu philosophie de comptoir, mais je pense qu'il faut se connaître et chercher derrière à décliner. Bah moi, par exemple, je sais que je suis pas feignant quant à la quantité d'entraînement, et par contre, bah j'ai besoin de manger pour me sentir bien. Donc de ce côté-là, bah boum, c'est cool, c'est deux choses qui vont bien ensemble. Par contre, en plus, j'aime beaucoup faire la fête. Ah bah là, c'est compliqué. Du coup, bah voilà, il faut commencer un petit peu un arbitrage. Mais me dire, bah, c'est bon, moi j'ai besoin de faire la fête et je vais faire la fête tous les jours, bah ça marche pas. Mais à l'inverse, j'ai aussi parfois essayé d'être hyper scrupuleux de ce côté-là. Et au bout d'un moment, je dégoupillais et quand je sortais une fois, je faisais n'importe quoi. Et je mettais 4-5 jours à m'en remettre. Donc voilà, il faut trouver un juste équilibre. Et donc c'est valable pour l'alimentation, comme pour tous les autres domaines de l'entraînement.
Est-ce que tu as une notion de un peu de j'allais dire de sèche ou de pré-préparation, tu vois, avant une grande compétition, de dire il faut que je suive une sorte de régime enfin alimentaire ou préparation spécifique pour parce que tu parlais du judo. Le judo c'est un cas intéressant où il faut qu'il rentre dans un poids de forme enfin ceux qui en tout cas sont régis par les poids de forme. Je parle même pas de la lutte où là c'est encore pire où les lutteurs on sait que dans les dernières heures et les boxeurs il faut vraiment rentrer dessus puis après ils reprennent du poids, ils ont tout un tas de stratégies. C'est un peu pareil, c'est un peu cette logique là où finalement c'est pas si strict que ça.
Bah si tu veux, là encore une fois, ça dépend vraiment de ton approche. Je sais qu'il y a des trialistes qui vont avoir tendance à se dire, moi l'hiver, Je vais bosser très fort en prépa physique et je vais essayer de maintenir un niveau technique pas trop dégradé. Et puis je vais accepter de prendre du poids parce que je veux surtout pas être en dette calorique pour faire fructifier ma muscu. Et je me réveillerai au printemps pour être fort pour la saison estivale. Il y a des mecs chez qui ça marche super bien. Moi, je ne peux pas du tout fonctionner comme ça parce que ce qui me préoccupe au quotidien, c'est mon niveau de performance sur le vélo, quoi. Moi, quand je vois que mes barres en muscu progressent, je suis content, tant mieux, mais je m'en fous, en définitive. Du coup, le truc, c'est que moi, je veux garder une progression tout au long de l'année. La saison, elle se termine, on va dire, la plupart du temps, ça se termine en octobre. Je me laisse 3 semaines cool où je coupe pas, mais je roule un petit peu sans objectif. Et à partir de là, l'objectif, c'est au 1er janvier d'avoir rattrapé mon meilleur niveau de la saison précédente pour bâtir là-dessus et avancer davantage. J'y arrive pas toutes les années, malheureusement, mais c'est vraiment mon objectif. Du coup, pour répondre plus concrètement à ta question, ben moi, je vais jamais me dire que c'est pas grave si je prends 5 kilos. Et à l'inverse, je vais pas chercher à me sécher avant les compètes et à me fatiguer parce que je pense pas que ce serait pertinent. Du coup, oui, mais très légèrement. C'est-à-dire que l'hiver, je vais pas trop me prendre la tête. Je vais tâcher d'encaisser au mieux la grosse période de prépa physique. Et du coup, je vais pas trop me prendre la tête si j'ai 1 kilo ou 2 de trop. Mais non, non, il va pas du tout y avoir une espèce de période. Moi, j'essaie de sortir un maximum parce que l'alternance, en fait, des saisons toujours les mêmes, en gros, il va y avoir une période d'athlétisation un peu générale. Puis, je vais faire de la force. Puis je vais rentrer dans l'explosivité, de la vitesse pour avoir mon pic de forme, je sais pas quoi. Moi, j'essaie de sortir un maximum de ça parce que je trouve que c'est à la fois pas très épanouissant sur la saison et à la fois super redondant parce que chaque année, le même cycle qui démarre, qui redémarre. Moi, j'essaie vraiment de sortir de ça. Je pense que ça peut être super pertinent dans des sports à dimension physiologique prioritaire, ou en tout cas ça l'est ou ça l'est pas, j'en sais rien. Mais je trouve que dans le mien, moi, je me nourris pas de ça en fait. Moi, je me nourris de progresser techniquement, de me faire plaisir sur mon vélo. Du coup, je sors jamais trop de cet objectif-là de mon niveau de pratique, quoi. Et moi, j'aime bien me sentir fort tout le temps sur le vélo, parce que c'est ce qui me botte dans la vie, en fait. Et du coup, à la marge, là, tu vois, on est tout début juin, on a quelques petites compètes qui attaquent. Le championnat de France, il va être aux alentours de fin juillet. Les Coupes du Monde attaqueront en août. Donc là, voilà, je me suis pesé ce matin. J'ai pris du poids. Je vais faire un petit peu gaffe, mais voilà, ça va être simplement faire un petit peu plus attention pendant quelques temps, essayer de revenir à un poids un peu plus que j'estime meilleur. Mais moi, j'alterne pas trop sur l'année. J'essaie de me sentir bien toute l'année, fort toute l'année. Peut-être à tort, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne.
Ouais, je me dis, tu dis bon là t'as un peu de poids à perdre etc. Donc tu vas aller faire quoi du vélo mais sans faire sauter par-dessus les trucs ou tu vas aller courir, tu vas faire
Non, surtout pas. Non, non. Déjà, moi, tout ce qui est endurance, je déteste ça.
Ouais.
J'ai jamais fait. Donc, déjà de ce côté-là, je risque pas d'aller sur ce terrain-là. Et puis, encore une fois, j'ai un gros volume d'entraînement. Donc, ne serait-ce que mon métabolisme de base, il est super élevé. Donc, si je mange un tout petit peu moins, immédiatement, je vais perdre du gras. Donc, non, non, non. Ça, je touche pas au volume d'entraînement. Je vais pas non plus chercher à être en déficit calorique, parce que sinon je vais commencer à me fatiguer. Donc non, je ferai simplement un peu plus attention. Je vais me peser aussi un peu plus souvent pour m'assurer de perdre les 2 kilos qui me font plaisir sur la balance. Mais non, non, moi je rentre pas trop dans un régime à proprement parler. C'est pas trop mon truc. Et puis en plus, je suis un peu, comme je te le disais, je suis un petit peu tout le temps blessouillé. Du coup, en ce moment, je suis bien embêté au niveau de mes hanches. Donc je vais surtout pas aller mettre un sport cyclique avec des impacts et tout. Enfin, course à pied, c'est impensable. J'ai mal quand je monte les marches chez moi, donc je vais pas aller faire de la course à pied, c'est clair.
Et sur du vélo VTT classique, je veux dire, ou des choses comme ça, ou...
Ça, pareil. On a un sport. T'as des questions qui sont super simples et je fais tout le temps des réponses très alambiquées, mais
Non mais
non, en
c'est
fait.
bien justement de creuser un peu parce que moi, en fait, je suis un curieux, tu sais, et moi, je me dis, mais je me dis, est-ce qu'un... Parce que les cyclistes, ils sont quand même réputés pour faire beaucoup, beaucoup de kilomètres. Quand tu parles à un cycliste classique, il fait du kilomètre, du kilomètre, du kilomètre, du kilomètre. Et là, moi, je m'attends à me dire... Un gars qui fait des sauts dans tous les sens, il en fait pas tant que ça, des kilomètres, parce que finalement, c'est pas ce qu'il recherche.
C'est clair. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, on a un sport qui a plein d'horizons. Il y a des mecs qui viennent du vélo traditionnel, et du coup, eux, dans leur entraînement, très naturellement, ils vont avoir tendance à garder une sortie longue, peut-être même sur route. Pourquoi pas pratiquer un peu de VTT pour aller faire du fractionné, de l'explosivité et tout. Moi, je viens pas du tout de ça. Moi, gamin, j'ai fait du BMX, du motocross et beaucoup de moto-trial. Donc moi, je suis venu par les sports, je suis venu par le pilotage plus que par le vélo d'endurance. Et du coup, moi, ce qui me plaît, c'est voilà, c'est vraiment le côté, voilà, c'est l'aspect technique dans mon sport. Donc moi, je me suis jamais considéré comme un cycliste. Moi, je fais pas de vélo, quoi. J'ai jamais eu de VTT. J'ai jamais eu de VTT de ma vie. J'ai un vélo de ville sympa pour aller chercher le pain. S'il tombe trois gouttes ou si la boulangerie elle est finalement en haut d'une côte, je prends la bagnole, quoi, parce que j'aime pas ça. Par contre, bah, je vais aller faire. J'ai fait beaucoup de BMX. Je vais aller faire de la moto. Par contre, je suis capable de me mettre minable au judo. Donc, d'aller me faire la guerre avec des mecs pendant 2 heures, ça me plaît. Donc, pareil, j'aime les sports de combat, j'aime tout ça, mais voilà, l'approche cycliste de ma discipline, elle m'échappe complètement. Moi, je fais pas du vélo dans ma tête, je fais du trial, quoi. Je me sens plus proche d'un mec qui fait de la moto trial que d'un vététiste en cross-country, par exemple. Alors que certains autres ont démarré par le cross-country et sont toujours super proches de ça et vont me dire que pour eux, il est fondamental dans leur discipline, parce qu'ils font du vélo, d'en intégrer, etc. Et ils ont absolument pas tort, quoi. C'est juste des approches différentes.
Ouais, mais c'est super intéressant de voir que justement les approches différentes amènent finalement à des résultats comparables, puisque pour eux aussi ça marche finalement, hein. Une année c'est toi qui l'emporte, une année c'est eux qui l'emportent, et ça fait des années que ça dure ainsi finalement. Et je me dis quand même, en plus, les petits jeunes, ils doivent arriver, ils doivent voir Vincent Hermance en disant waouh, attends, le gars il est multiple champion du monde, je vais lui faire la nique aujourd'hui, je me prépare, je me chauffe, etc. Et je pense qu'il y a une pression aussi quand même des petits jeunes qui doivent pousser là, qui doivent dire on va prendre la place.
Pour moi, c'est pas une pression, c'est une ressource, quoi. Moi, quand je vois qu'un nouveau mec monte et qu'il fait des trucs que j'ai jamais fait, je trouve ça trop cool, en fait. Ça me motive à fond pour essayer de faire la même chose. Après, je t'avoue que quand je regarde les vidéos de mes concurrents, j'espère qu'une chose, c'est qu'ils soient pas si forts que ça, en définitive, tu vois. J'aime bien les voir et me dire, oh, mais en fait, c'est pas si dingue ce qu'il fait. Mais j'aime bien quand j'ai besoin de m'en rassurer. Mais ça, c'est pas noble, en fait. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vois des trucs qui me font mal à la tête et que ça me pousse à aller m'entraîner. En définitive, c'est ça qui est cool. Du coup, que ce soit des jeunes ou mes concurrents toujours ou quoi, bah, moi, j'essaie de m'imprégner un maximum. Tu vois, il y a des mecs qui vont te dire qu'ils regardent pas du tout ce que font les autres, que c'est pas leur problème et tout. Je sais même pas si c'est vrai, mais moi, je me nourris au contraire énormément de ce que peuvent proposer les autres, parce que, bah voilà, il y a tellement de façons de rentrer dans ma discipline, tellement de moyens de progresser, des trucs que j'aurais jamais imaginé des années en arrière, que je me dis qu'il faut vraiment rester ouvert. Donc, non, moi, je trouve ça trop cool. Les jeunes qui sont forts, c'est top. Et puis en plus, ça fait tellement longtemps que je suis là que voilà, je pensais que ma carrière elle durerait. Tu vois, je vais avoir 37 ans. Il y a 10 ans, je pensais que j'étais un peu en bout de course, quoi. Et puis en définitive, je me suis rendu compte que j'avais toujours envie. J'ai su me réinventer. C'est super riche, mais voilà, moi, je souhaite à ma discipline qu'il y ait des jeunes qui arrivent et qui nous mettent à la poubelle, quoi.
Oui, parce qu'en fait, en regardant un petit peu et cette fameuse fiche Wikipédia, il y a des endroits où ça marquait qu'à 2012, tu pensais prendre ta retraite dans ces zones-là. Donc, ça veut dire que finalement, tu dures depuis plus longtemps que ce que tu avais prévu. Et tu dis, tu as aussi beaucoup les blessures. On se rend pas compte des impacts. Parce que on dit finalement, tu sautes d'un bloc, mais il faut redescendre aussi du bloc.
Ouais, en fait, tu vois, il y a quelques semaines encore, je t'aurais dit que j'avais jamais été opéré. Ça a été fait depuis lors, mais non, en fait, c'est un sport assez peu dangereux au niveau des chutes. Bizarrement, quand on voit ce qu'on est capable de faire, on se dit qu'on doit passer notre temps avec des plâtres de partout. En définitive, pas tellement, parce que déjà, il n'y a pas de contact avec d'autres pratiquants. On est seul dans notre parcours. Et puis, il n'y a pas énormément de vitesse. Et il y a en théorie un niveau de maîtrise élevé. Ce qui fait que normalement, avant même que tu sois en train de chuter, tu le vois, tu commences un petit peu à réguler le truc. Et puis je pense aussi que j'ai la chance d'avoir une bonne constitution, parce qu'il y a des mecs qui se sont beaucoup pétés. C'est pas mon cas. Donc voilà, il y a une part de, il y a, je pense qu'il y a, il y a une part de génétique et une part de chance aussi, parce que bah, quand tu te fais un genou, tu as des chances super importantes de te faire le second. Donc voilà. Moi, de ce côté-là, ça tient pas mal. Par contre, c'est sûr que c'est un sport où il y a plein de traumatismes tout le temps. On passe notre temps à encaisser des réceptions, puis même des appels, des appels, des appels. Voilà, sauter, 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 la muscu, les charges et tout. C'est un sport qui est, c'est un sport qui est assez traumatisant. Et du coup, bah, évidemment, si tu subis des traumatismes, ton corps s'adapte, donc tu deviens plus fort et plus résistant, mais à la marge, quoi. Et moi, je sais que par exemple, me suis peu blessé directement, donc ça c'est cool, je suis assez résistant aux impacts, par contre j'ai eu toutes les tendinites possibles du monde, quoi. Et je suis tout le temps embêté avec ça, donc voilà, il y a des périodes où c'est mieux, et j'ai eu évidemment mal au genou, parce que c'est une articulation très sollicitée chez nous, j'ai eu mal au genou pendant des années, j'ai plus rien du tout, et plus je fais de muscu, moins j'ai mal au genou, c'est top, par contre depuis 6 mois j'ai super mal aux hanches. Et voilà, en fait, c'est le tendon du moyen fessier qui est super inflammé. Et voilà, je traîne ça. Donc voilà, ouais, ce côté-là, c'est galère parce que c'est, honnêtement, c'est plus en plus souvent et plus en plus long. Je récupère de ce que, je sens pas trop honnêtement, les effets de l'âge. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'au niveau de la récup, là, ça se sent bien, quoi. Du coup, ouais, tout le temps des petites blessures. Et puis voilà, j'étais opéré il y a quelque temps du pouce. Tu vois, je me suis pété un ligament, et un ligament un peu pourri qui se remet pas de lui-même, en fait, qui a besoin d'être réattaché. Donc voilà, j'ai connu aussi maintenant les joies de l'opération, et du coup, j'ai dû m'arrêter en tout 6 semaines, et c'était le plus long arrêt de ma carrière, tu vois. Donc j'ai de la chance de ce côté-là, c'est bien payé. Par contre, ouais, je l'ai mal vécu. Je me suis arrêté 6 semaines, j'ai repris. En plus, j'avais évidemment encore mal. J'avais perdu du niveau, un truc de fou. Je tombais dingue, quoi. Donc, tu vois, dans ces moments-là, je me rends compte à quel point j'aime ça. Et autant, bah ouais, plus jeune, moi, j'ai pu dire, si je gagne encore une fois ou quoi, c'est bon, je passe à autre chose. Et en définitive, pas du tout, quoi. C'est ce qui me botte dans la vie. C'est pareil, j'ai toujours du mal avec cette phrase-là chez les sportifs, mais j'ai l'impression que c'est mon truc, c'est ce que je sais faire de mieux, c'est voilà, c'est ce qui me définit le mieux. Donc je sais que l'arrêt sera hyper compliqué pour moi, et je vois aucune raison d'arrêter entre guillemets de mon plein gré. Maintenant, j'espère vraiment que si je commence à me faire cabosser en compète, je saurai m'arrêter, mais j'en suis même pas sûr. J'espère en tout cas qu'il y aura des gens autour de moi pour me dire, écoute, t'en as fait assez, il y a d'autres choses à voir dans la vie. Mais ouais, je m'intéresse à 1000 choses, mais juste après mon sport.
J'allais te dire, je sais pas si c'est une discipline dans laquelle il y a des catégories d'âge, parce que tu sais, en course à pied, t'as les vétérans, à 90 ans, il y a une catégorie V5 ou V je sais pas combien, tu sais, et même en Ironman d'ailleurs, hein, si tu prends en Ironman, il y a une catégorie V je sais pas combien, où le 83 ans, tu vois, ils ont fait l'Ironman, et donc il est tout seul, mais il est champion du monde, tu vois, dans sa catégorie. Je sais pas si t'as des catégories d'âge, tu disais en jeunesse, en jeune, mais après, à partir d'un moment, tu pourras avoir, comme chez les tennismans, tu vois, un côté vétéran, un côté... ça existe, ça ?
Ouais, en fait, ça existe au niveau régional, et ça se faisait au niveau national, mais je suis plus sûr que ça fasse toujours. Mais c'est pas du tout mon truc, dans le sens où... Ouais, dans le sens où c'est pas mon truc, quoi. Non, moi je veux essayer d'être le meilleur tout court. Par contre, tu vois, j'ai déjà fait des compètes vétérans en judo, et je trouve ça trop cool, parce que bah en fait vétéran en judo, ça veut dire que t'es peut-être un peu moins sur le régime, un peu moins à t'entraîner 10 fois par semaine parce que t'es en pôle, et du coup le but c'est pas de faire du haut niveau, le but c'est de te battre contre des mecs qui ont à peu près les mêmes moyens que toi. Et je suis convaincu que je ferai beaucoup plus de judo après ma carrière en vélo. Et du coup, ouais, j'irai faire des compètes de vétérans pour être contre des mecs qui ont eu une petite carrière et qui ont continué, des mecs comme moi qui ont démarré sur le tard. Mais quelque part, demain, je fais une compète de judo, je tombe contre un mec qui a été niveau national français. Je me dirais qu'il est lourd, quoi, qui vient nous gaver dans notre truc entre nous, laisse-nous nous marrer cette compète du dimanche matin, tu vois. Et du coup je le ferai avec grand plaisir en judo, mais pas dans mon sport.
Ouais, toi dans ton sport, c'est champion du monde. C'est quand les prochaines là tu disais là, bientôt un peu le Coupe de France, Championnat de France, c'est quoi? C'est les.
Ouais, alors on va démarrer d'ici peu là, dans 2 bonnes semaines, on démarre la Coupe de France à Liffré en Bretagne. Et ça va être cool. On va aller faire la première épreuve de l'année. Après, pour moi, les Coupes de France, on est sur un objectif intermédiaire. On est à la fois entre l'épreuve de prépa et la vraie échéance. Si tu veux, en plus, c'est très tôt dans l'année. Donc, à la fois, ça va être la première grosse compète. Donc, j'ai envie d'être fort. À la fois, les manches de Coupe du Monde, elles démarrent en août. C'est août, septembre et octobre, les manches de Coupe du Monde. Donc, voilà, c'est pas la peine d'être là maintenant. Dans ma prépa, je suis pas encore au top. Et c'est pas le but d'être calé sur les ultimes petits détails. Du coup, voilà, on démarre là gentiment. Mais le but, ça va être d'être au top sur la fin de l'été, quoi. Donc, ouais, première Coupe de France. Et on aura le Championnat de France derrière. Le Championnat de France qui est beaucoup plus reconnu dans notre sport que la Coupe de France. Donc voilà, on va avoir malgré le Covid une belle saison et ce sera cool parce que bah, l'année dernière, tu vois, on a eu en définitive que 2 compètes. On a réussi malgré tout à avoir Championnat de France et la Coupe de France. Mais moi j'ai vraiment atteint mon meilleur niveau l'année dernière pendant la saison dernière. J'étais super au top parce que j'ai vraiment réussi. Pendant le premier confinement, tu sais, le vrai, pendant le vrai premier confinement, j'ai vraiment réussi à mettre à profit ça pour remettre plein de choses à plat dans ma prépa. J'ai été ultra fort derrière et pas de saison. J'étais dégoûté. Donc voilà, j'ai malgré tout réussi à remporter la Coupe de France l'année dernière, c'était cool. Mais voilà, là on va avoir une vraie saison et ça va être top. Et en plus, on a tous trop faim. Là, moi, je reviens de Barcelone, tu vois, le week-end dernier. J'étais allé faire une autre compète de prépa avant ça en Espagne déjà parce que eux, ils ont repris. Et du coup, je suis 2 fois allé faire des coupes. C'est les coupes catalanes. Donc, en théorie, tu vois, c'est un truc qui est censé être régional. Sauf que tellement tous énervés qu'il y a la moitié du monde qui s'est déplacé là-bas. Et c'était trop cool. Donc, non, non, c'est génial que ça reprenne. On va avoir une belle saison. Et puis ça va être cool. Et il y a la Coupe de France qui arrive, et il n'est pas impossible qu'on ait des étrangers qui viennent jusqu'en Bretagne pour en découdre parce qu'on a trop envie.
Alors, pour finir cet épisode, moi j'ai toujours une question, c'est est-ce que tu as un plat préféré, tu sais, le petit truc, qui peut être d'ailleurs, après une compétition, c'est ta petite tradition, tu sais, ou avant, peut-être une superstition, en disant, ah, est-ce que tu as un truc, une recette magique, un petit plat caché ou une petite astuce?
Non, rien de bien original. Moi, je suis méga gourmand, donc j'aime 1000 choses. Et par contre, je t'avoue qu'après les compètes, c'est burger, un peu obligatoire. Donc pendant des années, j'étais même capable d'atterrir au McDo s'il fallait, tellement c'était la case obligatoire. Maintenant, au pire, ça attend un jour ou deux et c'est un burger un peu plus sympa. Mais non, moi, je suis très gourmand et donc un bon burger, c'est magnifique. Et puis après. Après, franchement, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Moi, j'aime tout. Mais j'essaie justement, à mesure que je profite de plus en plus de mes dernières saisons, faire les choses intelligemment. Et voilà, du coup, de manger les choses dont j'ai envie, quand j'en ai envie, avec un certain bon sens, et de m'ouvrir un petit peu aussi aux choses que je ne connais pas. Et c'est ça qui est top dans le sport, parce qu'on a l'occasion de voyager beaucoup. Donc franchement, ça dépend carrément des moments. Je ne saurais pas te dire le truc que j'aime, par contre, je peux te dire de quoi j'aurais envie ce soir, par exemple. Là, il fait beau et tout, des grillades, ce serait cool, tu vois.
Ouais, c'est cool. Bah comme quoi, tu vois, on peut faire du sport de très très haut niveau parce que, je le répète, t'as été champion du monde et Europe, France et tout tellement de fois que et pouvoir dire bah oui, on peut aussi profiter, ça fait plaisir. Et puis c'est vrai que t'es dans un sport où, comme tu disais, t'as pas les mêmes contraintes non plus qu'un marathonien qui doit être le plus léger possible, etc. Et c'est d'autres contraintes, c'est d'autres manières aussi d'envisager le sport. Et c'était super intéressant de découvrir tout ça. Je te remercie beaucoup. Moi, j'étais très curieux. Alors j'ai une dernière question, mais alors qui est vraiment, toi, là, c'est là où moi j'y connais rien du tout. Parce que on n'a pas parlé d'un truc. C'est la différence entre les roues, parce que il y a des mecs qui font du VTT qui écoutent l'épisode, ils doivent se dire, t'as été champion en fait en 26 pouces et en 20 pouces. Je vois que tu as essayé et je me dis, c'est quoi la différence pour être autant champion en 26 et finalement pas y arriver en 20?
Ok, alors c'est très simple. On a 2 disciplines dans mon sport, 20 pouces, taille de roue d'un BMX, 26 pouces, taille de roue d'un VTT. VTT, il y a quelques, maintenant, il y a des roues un peu plus grandes et
ouais,
tout.
Il y a des grandes roues, ouais.
Et du coup, après, les règles sont exactement les mêmes. Tout est exactement pareil. Sauf que c'est pas tout à fait le même vélo. Donc, pour certaines techniques, t'es un peu plus fort et avantagé avec l'un et inversement. Mais c'est surtout que, bon, en fait, mon vélo, c'est 26 pouces. En France, c'est vraiment la discipline qui domine. Et du coup, moi, j'ai toujours fait ça. Et bah, écoute, j'ai fait deux fois troisième au championnat du monde en 20 pouces. Donc, c'est pas dégueu non plus. Mais je pense qu'en fait, pour tâcher d'être le meilleur, il m'aurait peut-être fallu plus de saisons en 20 pouces. J'ai peut-être pas passé tout à fait assez longtemps pour que, bah, au-delà d'être un vélo maîtrisé, ce soit vraiment le truc parfaitement à ma main, quoi. Je maîtrisais, mais visiblement pas suffisamment. Après, j'étais aussi parti faire du 20 pouces parce que je me faisais trop défoncer par un autre Français qui gagnait tout en 26 pouces. Et du coup, je saturais un petit peu. Donc, j'ai fait une saison de 20 pouces. J'ai trouvé ça super cool. Ça m'a forcément obligé à m'adapter. J'ai appris plein de choses avec ce nouveau vélo. Et quand j'ai repris le 26 pouces, j'ai été beaucoup plus fort qu'avant. Et j'ai repris le titre de champion du monde derrière. Donc, je pense que ce titre-là, je le dois autant au boulot que j'avais fait cette année-là qu'à la saison précédente en 20 pouces. Donc voilà, c'est simplement, si tu veux, on peut vraiment ramener ça à la cylindrée des motos, quoi. C'est qu'est-ce qui est le plus efficace en soi? Il y a peut-être un truc qui marche mieux, mais je suis pas sûr que si tu prennes le champion du monde de MotoGP et que tu le mettes en Moto 2, la catégorie inférieure, je suis pas sûr qu'il gagnerait pour autant, même si c'est soi-disant la discipline reine, etc. Bah, nous, en France, on reconnaît plus le 26 pouces, mais bah, tu l'as vu, hein, moi, quand je suis passé en 20 pouces, j'ai pas réussi à les battre, donc c'est qu'ils sont forts aussi.
Ouais, mais t'étais quand même pas si loin que ça, c'est vrai que parce que tu le dis, quand on regarde le palmarès, hein, ça se joue pas à grand chose, hein, finalement, même en Coupe du Monde, t'as une deuxième place, j'ai vu. Donc, ça joue pas à grand chose, hein. Mais c'est comme ça, voilà. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous, pour nous avoir fait découvrir cette discipline, et puis un petit peu toutes les contraintes, et c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît pas, et puis on se rend pas compte, parce que moi, je te voyais voltiger, je me suis dit, mais les gars, je vois pas la durée d'entraînement, le volume d'entraînement qu'il y a derrière. En tout cas, c'est vrai que et on le dit, ça fait des magnifiques images. Que ce soit en termes compétition comme toi tu fais ou en termes j'ai envie de dire un peu les vidéos un peu buzz qui font ça et puis avec des marques qui sponsorisent beaucoup et tout le monde voit de quelle marque je parle bien entendu là-dessus mais c'est vrai qu'on se rend pas compte de toutes les contraintes et à quel point ça demande de l'énergie et d'une type d'énergie pour arriver finalement à se mouvoir comme ça sur ses roues et dans l'air.
Ouais, bah après c'est pareil, hein. Comme toutes les choses bien faites, ça semble sans effort. Et moi, ça me plaît bien en fait. Du coup, les gens qui veulent s'intéresser à ça, ils se rendent compte que c'est quelque chose de, bah, comme tous les sports de haut niveau, que c'est pointu et qu'il faut prendre le truc par tous les bouts possibles et en faire une. Il faut régir sa vie autour de ça. Et à côté de ça, bah voilà, moi quand je vois des gamins qui trouvent juste ça génial et qui me disent, je peux essayer ton vélo, j'ai envie de faire pareil. Moi, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop trop cool. Donc non, moi j'ai pas de problème avec ça. Si ça paraît facile et à la portée de tout le monde, et bah tant mieux, ça fera plus de pratiquants.
Ouais, bon bah moi qui ai essayé de faire un petit peu de sauter par-dessus une petite quelques trucs à mon époque BMX, je me rends compte à quel point c'est pas si facile que ça. Mais l'autre jour, tu sais, j'ai vu passer dans une rue pas très loin de chez moi, j'appelle ça un papy, mais je sais pas quel âge il avait, mais au moins il avait pas loin de 60 ans sur son BMX, il avait l'air de s'éclater, tu vois et tout. Et ça me rappelait mes jeunes années, je me suis dit, ah dis donc, qu'est-ce que j'ai fait du BMX, essayer de sauter par-dessus des trucs, etc. Voilà, donc j'étais super content de discuter avec toi aujourd'hui. Alors on va juste donner les liens pour te suivre. Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures? Alors un compte Instagram?
Ouais, c'est là-dessus que je suis le plus actif, on va dire. Donc mon compte Instagram, c'est simple, Vince Hermans. Donc mon prénom à peine raccourci et mon nom de famille. Et puis du coup là-dessus, bah, toute mon actu et puis après Facebook, visiblement Wikipédia aussi. Donc voilà.
Ah oui. Et Wikipédia, on peut le dire, il y a un nombre d'articles, si on veut vraiment en savoir plus, qui liste, il y a 36 références d'articles sur les différentes interviews, les compétitions, des vidéos, etc. Et puis quand on tape ton nom, il y a énormément de vidéos, on voit, et notamment la fameuse vidéo dans les Alpes, là, où tu sautes par-dessus de, c'est quoi, c'est un buron ou des choses comme ça, là, de pierre en pierre, de caillou en caillou. Et ça donne aussi une autre manière de voir le sport, totalement différente. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Je mettrai tous les liens en note de l'épisode pour qu'on suive tes aventures. Nous, on va se retrouver dans très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Vincent.
Super, merci beaucoup. Ciao.
Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple sur Instagram, @podcastsportetnutrition, et en laissant votre avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.